Bien. Ma volonté ou ta volonté? Alors, vous savez, si vous avez écouté comment Jésus, ce que Jésus enseigne sur la prière, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Il enseigne ses disciples à prier en élevant le nom de Dieu et afin aussi que nous demandions que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse dans notre vie et pas la nôtre. Et si vous êtes honnête avec vous-même, parce que j'essaye d'être honnête avec moi-même, je vois bien qu'il y a une lutte entre ma volonté et la volonté de Dieu. Si nous sommes honnêtes, nous voyons bien qu'il y a une lutte en nous, une lutte forte parfois. Parce que parfois, on a envie de quelque chose et on entend le Seigneur nous dire « Non, non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. » Et on le fait quand même. Enfin, vous, pas moi, parce que moi. Les trois fonctions de l'âme. Les trois fonctions de l'âme sont... Allez, vous allez travailler. Émotion. La deuxième, l'intelligence. Et la troisième, la volonté. Et on s'aperçoit que ces trois fonctions, elles sont vraiment liées les unes aux autres. Vous pouvez connaître et connaître la volonté de Dieu, être convaincu que ce que Dieu dit est vrai et être incapable d'accomplir cette volonté parce que vos émotions vont vous indiquer le contraire. Et inversement, je pourrais prendre plein d'exemples comme ça, de situations que nous avons vécues, où nous voyons qu'il y a même parfois une lutte entre ces trois fonctions de l'âme. Avez-vous remarqué ça? Et même parfois, il y a des dominantes en fonction des circonstances de nos vies. Parfois, ce sont les émotions qui prennent le dessus, et elles nous emportent parfois très loin. On peut agir sur le coup de l'émotion. Parfois, c'est notre intelligence qui est là et qui nous empêche vraiment... d'accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a plein de choses. Et parfois, nous avons en nous une volonté tellement forte, tellement ancrée en nous, qu'il nous est incapable d'avoir des émotions pour Dieu. Moi, j'ai connu des personnes à qui j'ai annoncé l'évangile et qu'ils disaient, en arrivant dans cette église, par exemple, « Je ne bougerai pas d'un poil par rapport à Dieu », ils sont repartis comme ils sont venus. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'ils avaient décidé de quelque chose. Et parfois, notre volonté est très forte. Vous vous rendez compte donc de l'interaction qui existe entre ces trois fonctions de l'âme. Et il y a un homme que vous connaissez peut-être. Je ne l'ai pas connu, hein, j'ai lu quelques livres de lui. Charles Finney. Vous connaissez Charles Finney? Charles Finney était un prédicateur qui a amené le réveil, vraiment. C'est un évangéliste. Et il dit ceci. « Je ne prêche pas aux émotions des hommes. Je ne cherche pas à atteindre leurs émotions. » Bien qu'il voyait des personnes à genoux en train de pleurer de repentance. C'était un puissant homme de Dieu qui avait reçu une onction, une autorité pour prêcher l'évangile et ramener l'évangile dans le cœur des hommes. Et il voyait ces hommes à chaque réunion s'agenouiller, pleurer. Il dit « Je ne prêche pas à leur émotion, je prêche à leur volonté. » Parce que... Je cherche à changer leur volonté. Clairement, si tu veux changer, si tu veux que ça bouge dans ta vie, il y a cette fonction de ton âme qui doit changer. Il y a cette fonction qui doit nous amener à bouger. Vous comprenez? Jésus, c'est le modèle de notre volonté, de la volonté. Regardez, il est écrit en hébreu. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit... Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, pardon, mais tu m'as formé un corps. C'est Jésus qui s'adresse au Père, à Dieu le Père. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et personnellement, Christ a reçu un corps pour accomplir la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Il est en train de déclarer, tu m'as formé pour que je puisse faire ta volonté. Et tous autant que nous sommes, si nous nous appelons Christ, chrétien, petit Christ, Nous avons été formés, Dieu nous a formés pour qu'un jour nous puissions accomplir pleinement sa volonté. Pleinement, entièrement sa volonté, pas un peu de sa volonté, pas 99% de sa volonté, 100% de sa volonté. Et le corps que tu as reçu, le corps que tu as, tu dois le mettre au service de la volonté de Dieu. Vous êtes convaincus de cela ? Faites-moi un petit signe si vous êtes d'accord. Il n'y en a que trois, d'accord. Ça commence mal. Enfin, on va aller plus loin ? C'est un bon début. Vais-je rassembler plus de monde maintenant ? Mon jugement est juste, dit Jésus. On est en train de l'attaquer sur ce qu'il est et sur ce qu'il est en train de faire. Il dit, mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Autrement dit, souvent tu te poses des questions. Tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision je dois prendre dans ma vie? Comment je dois discerner ce qui est en train de se passer? Jésus est en train de dire ici, mon jugement est juste parce que je cherche la volonté de Dieu. Autrement dit, il y a beaucoup, parfois, d'incertitudes dans notre vie. Beaucoup d'incertitudes, parce que nous cherchons notre propre volonté, pas celle de Dieu. Je répète, il y a beaucoup d'incertitudes dans vos vies, parce que vous cherchez plus souvent votre volonté que celle de Dieu. Jésus et la Samaritaine. On va voir une des forces. Enfin, on va voir que la volonté est une force en nous. D'abord, on dit de quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est fonceur, on dit, il est volontaire. Quelqu'un de volontaire. J'ai eu un stagiaire qui n'avait pas beaucoup de capacité, franchement, au travail. Il préparait un bac pro, il a commencé par un CAP, il a commencé petit, il grandissait comme ça. Et vous savez ce que j'ai mis dans son rapport, enfin, volontaire. Il voulait avancer, il voulait devenir meilleur, il voulait apprendre, il voulait montrer qui il était. Et regardez, Jésus, quand vous connaissez peut-être l'histoire de Jésus qui arrive au puits de Jacob, il rencontre cette femme samaritaine. Et qu'est-il dit ? Il est dit que Jésus était fatigué, qu'il avait faim et qu'il avait soif. On est d'accord ? Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Alors il envoie ses disciples en ville. Allez me chercher un jambon beurre. Non, pas Jésus, parce qu'il mangeait sans doute pas de porc. Il envoie ses disciples chercher de la nourriture. Et quand ils reviennent, Jésus ne veut plus manger. Et ses disciples le pressent et disent, mange, nous sommes allés chercher à manger quand même. C'est comme si je rentrais à la maison, j'appelle ma femme, je dis à midi, je dis, tu sais, chérie, j'ai très faim. Et que je rentre le soir, elle m'a préparé un bon repas, je lui dis, non, j'ai plus faim. Je comprends leur frustration. Mesdames, vous connaissez peut-être ce genre de situation, où vous avez préparé un bon repas à votre mari, et il arrive et puis il dit, oh non, j'ai pas faim, je vais me coucher. Ah, c'est frustrant. Et Jésus dit, ma nourriture, entendez bien ceci, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il se passe quelque chose là dans la rencontre avec la Samaritaine. Le Fils de Dieu, qui est aussi homme, fatigué, faim, soif, il accomplit la volonté du Père d'aller chercher le cœur de cette femme, d'aller chercher cette femme, de la ramener dans le royaume de Dieu, et il dit à la fin, je n'ai plus faim, je ne suis plus fatigué, parce que j'ai accompli la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y a une clé ici importante que nous devons retenir. Dans ta vie de tous les jours, quand tu sens la fatigue, quand tu sens la faim, quand tu sens la faiblesse, je ne vais pas utiliser un mot du monde qui est très vulgaire, mais dit secoue-toi. Secoue-toi et fais la volonté de ton Père. Parce que c'est ça qui te renouvelle. C'est ça qui t'amène de la force. La volonté d'un homme ou d'une femme, c'est la force qui va lui permettre d'accomplir les choses. Et je crois que Dieu veut toucher notre vie et notre cœur dans ce domaine. J'en suis convaincu. Phrase clé. Vous pouvez consacrer votre vie à Dieu, mais si vous êtes esclave de vos émotions et de votre intelligence, vous n'aurez pas de résultat. Je répète, vous pouvez consacrer votre vie à Dieu. Vous pouvez venir au culte tous les dimanches, vous pouvez prier, vous pouvez lire la parole, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si vos émotions et votre intelligence dirigent votre volonté, vous n'aurez jamais de résultat. Je répète, pour que ça rentre bien, vous aurez beau faire ce que vous voulez dans votre vie, mais si votre intelligence et vos émotions dirigent votre vie, prennent le dessus sur votre volonté, vous n'aurez jamais de résultat. Petite histoire. Vous savez que nous avons voyagé aux États-Unis ? Très bon voyage. J'ai eu un bon guide, bon traducteur. Mes cheveux sont encore... petite histoire entre... C'est un petit message subliminal pour Damien. Et on a vécu vraiment quelque chose. On a vécu plein d'histoires. Je pourrais vous raconter plein d'histoires. Mais un jour, Chris Hodge, qui est le pasteur de cette église là-bas... Bon, c'est l'Amérique, je le sais. Ils ont commencé à 35 en 2001. Et aujourd'hui, ils sont 38 000. Bon, vous allez me dire, c'est l'Amérique. Néanmoins, c'est un homme qui a reçu vraiment un ministère pour aider les églises à grandir. D'ailleurs, le séminaire dans lequel nous sommes allés, c'est pour aller puiser des ressources, pour aller puiser des choses qui pourraient correspondre à notre église, pas recopier le mot pour mot, lettre pour lettre, les choses, mais en tout cas, de donner l'esprit dans lequel il fonctionne pour nous aider à grandir. Un jour, il y a un homme qui vient le voir, un pasteur, pasteur d'une église de 400 membres. Avec même Damien, on s'est dit quand même, il exagère le gars, que 400 membres. Tu te souviens, on s'était marré avec ça. Et cet homme vient voir Chris Hodge et lui dit, je voudrais, Chris, que tu m'aides à faire grandir mon église. Déjà, cet homme, il avait une qualité. Laquelle ? Il voulait que ça bouge. Il ne voulait pas limiter Dieu, en tout cas, dans l'apparence des choses. On va aller plus loin. Il ne voulait pas limiter Dieu, il voulait plus. Il n'était pas comme l'église de Laodicée qui dit « Je n'ai besoin de rien, je suis riche ». Pourtant, il pourrait se satisfaire de 400 membres et faire fonctionner son église. Il dit « Je veux plus, je veux vraiment que les gens soient sauvés ». Donc, Chris Hodge va le voir et lui dit « Écoute, d'abord explique-moi comment est ton culte ». Comment tu fonctionnes dans ton culte ? Il me dit, on a la louange qui dure, une petite heure, et après je prêche. Et bien, il dit, combien de temps prêches-tu ? Et il dit, une bonne heure. Alors Chris Hodge, je lui dis, mais attends, imagine une nouvelle personne qui arrive ici, c'est beaucoup trop long. Tu vas le gaver le gars, il reviendra plus. Alors il lui répond, mais tu sais Chris, je suis un très bon prédicateur. Et Christophe, je lui réponds, mais si tu étais si bon que cela, les gens reviendraient. Il est parti fâché. Quelques mois plus tard, il est revenu. Il a dit, Chris, je voudrais vraiment que tu m'aides. Et là, Christophe, tu as dit, maintenant je peux t'aider. Cet homme a changé cette manière de faire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez, on est tous... Et pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est qu'on a tous... la volonté d'accomplir le Père, la volonté du Père. On veut tous gagner les perdus. On veut tous voir notre église remplie de monde. On veut tous que ça change dans notre vie. On veut tous que ça bouge. On dit au Père, que ta volonté soit faite, Père. Sur terre comme au ciel, on prie cela. Ta volonté. Mais lorsque le Père nous envoie une ressource pour que ça bouge, les trois quarts du temps, vous savez ce que nous faisons ? Comme ce pasteur. Mais j'ai toujours fait comme ça. Mais je suis bon dans ce que je suis. Et pourquoi changerais-je ? Notre première réaction, c'est de toujours mettre notre volonté avant celle de Dieu. C'est de toujours rechercher la résolution des problèmes en fonction de ce que nous croyons et pas en fonction de ce que Dieu veut. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Si vous êtes d'accord, je continue. Si vous n'êtes pas d'accord, je m'en vais. Je continue. Bon, ça va, je me suis fait un disciple en une semaine, là. Derek Prince, je vais vous montrer un bouquin que je vous conseille. C'est très rare que je vous présente un bouquin. Maintenant, je parle anglais. Avant, je l'appelais Derek Prince. Maintenant, j'appelle Derek Prince. Ouais. Ça change un homme, hein, un voyage aux États-Unis. Hein. Il y a Aldora qui m'a prêté ce livre. Il m'a dit, Bruno, il faut que tu lises ça. Et je l'ai lu en grande partie aux États-Unis, avant notre séminaire. Et je partageais avec Damien dans la chambre de plusieurs choses que je lisais et qui m'interpellaient vraiment. Et Derek Prince, il parle, il dit que le tabernacle qui a été construit, alors si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous allez le voir, vous le verrez, mais il est mort. Donc il faudra attendre d'être au ciel, il a rejoint le Seigneur. Donc en attendant, il faudra le prendre sur vous. Même si vous n'êtes pas d'accord, il faudra attendre de le voir là-haut. D'accord ? Il dit quelque chose d'important. Il dit que le tabernacle qui a été construit ressemble en fait à trois dimensions. Le parvis, c'est le corps. Le lieu saint, c'est l'âme. Et le lieu très saint, c'est l'esprit. Il reprend ces dimensions-là. Et il dit, il a une approche très, très particulière qui peut vraiment... vraiment nous aider dans cette dimension-là. Et il fait une description du lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait trois choses. Il y avait la table des pains de proposition qui représente notre volonté. Il y avait l'autel des parfums qui représente nos émotions. Et il y avait le chandelier qui représente l'intelligence. Et il dit ceci. Il dit que dans... la première chose qui prenait le plus de place dans le lieu très saint, c'était la table des pains de proposition, qui était correctement rangée, on verra ça après. Et il dit que notre volonté doit toujours être éclairée par la volonté de Dieu, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Tout doit se faire, notre volonté doit être tout le temps en face. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais en préparant ce message, je me dis, c'est intéressant, parce qu'une fois j'ai fait du pain. Qui a déjà fait du pain ici? Avez-vous déjà fabriqué du pain? Moi, une fois, j'ai fait du pain, j'ai voulu le cuire dans ma cheminée, j'ai foutu le feu à la cheminée. Le jour de notre anniversaire de mariage. Il y avait ça de neige, il faisait froid, je dis à mon épouse, chérie, je vais te faire du bon pain. Et on va manger ça avec du Nutella, enfin, allez, tu verras chérie, tu vas te régaler. On a passé notre soirée à tout nettoyer parce que les pompiers avaient tout salopé par terre, enfin bref. Il faut être bon quand on fait du pain. Et il faut faire du pain correct. Et le Lévitique, d'ailleurs, donnait des règles précises concernant à la fois la confection et les pains de proposition. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne veux pas être trop théologique, mais être abordé avec vous. Si vous avez déjà fait du pain, vous vous rendez compte en fait que la première des choses que vous devez faire, c'est moudre le blé, finement. Si vous prenez du blé... je vous apprends rien, je pense pas. Si vous prenez du blé et que vous le mélangez avec de l'eau et que vous mettez ça au four, déjà pour donner une forme, ça va être compliqué. Mais ça ne marchera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut à un moment donné que dans notre vie, il y ait un changement de consistance, un changement de vie. Du blé, tu passes à la farine. Tu es toujours blé. Les molécules sont toujours les mêmes. Mais tu dois passer de l'état d'homme et de femme loin de Dieu à l'état d'homme et de femme transformé. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, il est dit que tu passes de la mort à la vie. Et tu dois passer par la mort à toi. C'est-à-dire que tu dois passer par la crucifixion. Tu dois passer par la croix. C'est-à-dire qu'un jour, tu dois recevoir Jésus dans ton cœur. Et tu dois lui dire, viens amener tout mon péché, tout ce qui est sale en moi. Je veux que tu le prennes et que tu me purifies. Autrement dit, Beaucoup de personnes ont des problèmes de volonté. Et même dans l'Église. Et tu dois te poser la question, à un moment donné, suis-je vraiment celui qui est passé de la mort à la vie? Suis-je vraiment celui qui est passé du blé à la farine? Est-ce que je suis passé par la mort de la croix? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que je suis clair? Est-ce que tout le monde comprend? En gros, est-ce que je suis vraiment converti? C'est la première leçon. Tu dois changer de vie. Le jour, on a parlé de notre ancienne vie avec Damien le long au bord de la piscine. On s'est raconté des trucs du passé, etc. Et à chaque fois, notre conclusion, c'était quoi? Mais je ne suis plus le même. Mais je ne pense plus le même. Mais je ne fais plus comme avant. Parce que ça change. Et si notre vie ne change pas, c'est qu'à un moment donné, nous sommes restés blés. Et automatiquement, notre volonté ne peut pas changer. Elle change dès lors que, elle peut commencer à changer dès lors que ta vie est placée sous le regard de Dieu. Où tu dis, maintenant Seigneur, je suis ton enfant. Vous comprenez ça? La deuxième étape, c'est il faut mélanger la farine à l'eau. Et un bon boulanger vous dira, pour faire du bon pain, il faut de la bonne eau. Si vous prenez de l'eau qui a du robinet qui a un goût, votre pain va prendre le goût de l'eau. Je sais, j'ai testé pour vous. Une autre fois, j'ai fait du pain, je trouvais que mon pain avait du... Mais j'avais pris de l'eau du robinet. Et l'autre fois, j'ai pris de l'eau de bouteille. Et ça n'est pas du tout le même goût. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit que Jésus a annoncé une parole et que la parole est transformée et est le symbole de l'eau. L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Et tu ne peux pas changer et agir et te laisser pénétrer dans ta volonté si la parole de Dieu ne vient pas dans ton cœur. Beaucoup de chrétiens se posent la question et se disent « Ah, et qu'ils luttent avec, ils ont des luttes internes. Ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas bouger, ça ne bouge pas dans leur vie. Vous savez pourquoi ? Compte le nombre de fois tu médites la parole de Dieu. Compte le nombre de fois où tu cherches dans la parole de Dieu ce que veut pour ta vie. Toutes les fois où ça a bougé dans ma vie, c'est lorsque j'ai saisi la parole de Dieu et que je me la suis accaparée. Mais Jésus, il n'est pas venu simplement avec de l'eau. Il est dit dans Hébreux, je crois, qu'il est venu, ou dans 1 Jean, ouais. Il est venu avec l'eau et le sang. Alors vous allez me dire, si je fais du pain avec de l'eau et du sang, le pain ne sera plus très blanc. Mais ce sang, il purifie. Autrement dit, quand tu reçois la parole de Dieu, ce n'est pas pour t'accuser. Ta volonté ne doit pas être placée sous le poids de la culpabilité, mais elle est placée sous le regard à la fois de la parole qui agit, mais la parole qui purifie par le sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez la différence? Vous pouvez forcer quelqu'un à changer. Mais ça reste le changement forcé. Alors que lorsque tu saisis que la parole de Dieu vient dans ton cœur et qu'elle vient te dire « change de comportement, change d'attitude, change de manière de faire », là, vous pouvez avoir la culpabilité venir sur votre vie. Mais si elle est accompagnée par le sang de l'agneau, elle dit « oui, ta vie n'est pas en ordre, Bruno. Ta vie, elle doit encore changer, mais mon sang te purifie ». Et ça, c'est tout à fait différent. Est-ce que vous comprenez? Ça m'encourage parce que je sens à la fois la grâce, l'amour de Dieu est en train de me dire, il faut que ça bouge, Bruno. Ta volonté n'est pas la mienne. Dans tel domaine de ma vie, de ta vie, ça doit changer. Mais maintenant, je veux te laver, te purifier et t'amener plus loin. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis toujours clair, vous êtes d'accord avec ça? Non, je continue. Ensuite, troisième étape, il faut pétrir et donner une forme à l'appart. Je suis admiratif, vraiment, parce qu'il y a une émission sur M6 où il faisait le meilleur boulanger. Là, je crois. Vous vous souvenez, c'est le soir quand je rentre du boulot, il y a des émissions comme ça qui sont... Moi, j'aime beaucoup regarder. Et ce qui est vraiment intéressant, bon, maintenant, ils ont des pétrins automatiques, mais ce qui est vraiment intéressant surtout, c'est quand je vois les mains qui pénètrent la pâte. Puis, j'avoue que c'est assez désagréable. d'aller mettre les mains dans la pâte et de commencer à pétrir, parce que je trouve que ça colle. Enfin, moi, j'aime pas trop. Hein. Alors, on est là, comme ça, on racle. Donc, quand vous faites du pain, lavez-vous les mains d'abord, hein, parce que les autres vont profiter de vos microbes. Pétrir et donner une forme. Quand vous pétrissez la pâte, en fait, vous amenez le mélange de l'eau et de la farine à devenir comme un mélange qui devient comme compact, comme solide. On sent que de plus en plus, au départ, la pâte est un peu tout éparpillée. Puis à un moment donné, la pâte est en train de prendre forme et elle colle de moins en moins sur les mains. Et puis elle continue à prendre forme. Et ce que j'aime dans cette image du pétrin, c'est qu'il y a comme une forme qui est donnée à chacun des cœurs. Mais tu ne peux pas devenir conforme, la même forme que Christ. Parce que quand Dieu nous prend dans ses mains comme ça et qu'il travaille notre cœur, ce n'est pas pour nous faire devenir plus beaux, ce n'est pas pour te faire devenir différent des autres. Il a un seul but, nous faire devenir conformes à Christ. Et quand tu dis, ô Père, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, quand tu dis, quand tu pries, que tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, en fait, tu es en train de prier, en train de dire, Père, que tu fasses en sorte que je devienne conforme à Christ. Et je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie, Seigneur, je t'ouvre mon âme. Et je voudrais vraiment que tu me rende conforme à Jésus. Est-ce que ça vous aide à prier? Quand vous allez prier, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite, ça vous amènera dans une conception qui est tout à fait différente de ce que vous pouvez imaginer. Parce que quand Dieu dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, il dit, je veux d'abord commencer par toi. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Jésus, il s'est fait pétrin, enfin pâte pour nous. Comprenez ce que je veux dire? Il n'avait pas besoin d'être formé. Il avait la gloire. Il a dit, moi je viens, je vais mourir. Je vais passer par la croix. Je vais passer par... permettre à l'eau de la parole de pénétrer mon cœur. Je vais me laisser mettre à mort par les mains du Père. Parce que je veux que les gens se nourrissent de moi. Il a dit, je suis le pain de vie. Vous comprenez ça? Dans son œuvre sur la terre, il est en train de dire, je suis le pain de vie, je vais amener la volonté, la force en l'homme par une présence de plus en plus puissante, forte dans la vie des gens. Et puis, moi c'est ce que, enfin, comme je vous disais, c'est la plus sympa. Parce que moi, quand j'aime faire du pain, c'est que c'est là où la forme qu'on a donnée va prendre vraiment... la forme du pain va prendre de la consistance. C'est-à-dire on pourra plus pénétrer et ça va... Vous voyez, il y a de la force qui va venir là dans la pâte qui est dans le... Alors, je vous ai fait un petit four à pain extérieur parce que c'est ce que je vais acheter l'année prochaine pour la fête des pères, si ça vous dit. Vous pouvez vous cotiser. On a un projet de faire des pizzas dans notre jardin. Ouais, on veut faire ça. Comme j'ai trouvé cette image, j'ai trouvé sympa. Donc j'ai mis quelques pains au bord. Et le pain, il passe à travers l'épreuve du feu. Et souvent, les gens disent, en parlant de Jean-Baptiste, qui dit, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Le feu, il compare souvent au Saint-Esprit, mais dans le mot initial, c'est puri, qui veut dire purification. L'épreuve de la purification. Et ce que je crois ici, c'est que le pain prend de sa consistance. Mais il y a comme de la force, comme des choses fortes. Le pain va pouvoir être, si je puis dire, amené à son étape ultime. Et souvent, on se pose la question. Quand on dit « Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur terre comme au ciel », on dit que ta volonté, mais je ne veux pas d'épreuve. Que ce que Jésus a fait. Dans le jardin de Gethsémané, il va voir il prie le Père. Il dit, oh, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais que ta volonté, mais pas la mienne. Et je crois que l'épreuve du feu, elle nous amène à réaliser une chose. C'est que souvent on prie que ta volonté soit faite, Seigneur, mais on n'est pas prêt à souffrir. On n'est pas prêt à être éprouvé. Or, quand je demande que la volonté de Dieu soit faite, je dois automatiquement passer moi aussi par le jardin de Gethsémané. Automatiquement. Parce que c'est là où les choses bonnes sortent. C'est là où ton cœur sera affermi. Je voudrais que vous donniez une autre image de l'épreuve. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand quelqu'un est mal, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, oh, on veut le sortir du feu. Je souffre. Il y a le petit pain là qui dit, purée, ça brûle aux fesses là. Je sens mes poils de jambes sentir le rôti. Et en fait, ce qu'on fait, nous, les trois quarts de temps, on dit, oh, vite Seigneur, sors-le de l'épreuve. Alors qu'en réalité, c'est bon ce que nous vivons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Où est-ce que je m'en vais? C'est beaucoup plus difficile à dire ce que je vous dis là. Et beaucoup plus difficile à recevoir. Et puis la cinquième étape, c'est ranger le pain. Il y a bien quelque chose que j'admire. C'est lorsque le pain est placé dans l'étal du boulanger. Et puis, j'aime beaucoup les pains bien rangés. Sur la table des pains de proposition, dans le lieu saint, il y avait deux rangées de six. Deux rangées de six, comme ça, qui étaient mis correctement. Les 12 pains de proposition étaient rangés sur la table en deux rangées de six. Et franchement, on a plus envie de manger du pain lorsqu'on voit ça que lorsqu'on voit, vous imaginez tout ce pain mis un peu n'importe comment. On va rentrer et on va dire, oh là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ordre. Discipline. Vous voyez, vous allez voir quelqu'un qui a été travaillé à tel point qu'il se soumet à la volonté de Dieu. Vous savez à quoi? À son ordre et à sa discipline. L'ordre, la discipline, l'excellence dans le rangement. Souvent, on pense, nous, charismatiques, évangéliques, pentecôtistes, que l'ordre et la discipline empêchent l'action du Saint-Esprit. Je répète, souvent nous pensons, entendez bien ceci, que l'ordre, l'excellence, l'exactitude sont des attitudes contraires à l'action du Saint-Esprit. C'est faux. Lorsque vous voyez, je vous invite à lire les passages qui concernent le tabernacle. Quand vous voyez l'exactitude avec laquelle Dieu demande que les pains soient posés, comment ça doit être fait au niveau de le truc des parfums là, l'autel des parfums et le chandelier, comment c'est travaillé. Je suis désolé, mais si ça n'avait pas été conforme, parce que Betsalel il a construit ça, si c'était pas conforme, vous auriez beau entrer dans le lieu très saint, il n'y aurait pas eu la gloire de Dieu, parce que ça ne correspondait pas à ce que Dieu voulait. Lorsque Moïse descend de la montagne, il lui est dit ceci de la part du Seigneur. Il lui dit, tu feras en fonction du modèle que je t'ai montré. Dans l'exactitude, dans la précision. Le problème, c'est que nous sommes chrétiens, évangéliques, charismatiques, pentecôtistes. On est tous, nous. Et ce qui nous intéresse, c'est de faire ce qu'on a envie. Comme on a envie et ce qu'on a envie. Et dès lors qu'on demande de l'ordre et de la précision, il y a de l'urticaire qui arrive. Parce qu'on pense que Dieu, tu vas empêcher l'action du Saint-Esprit. J'ai entendu mon épouse hier, parce que je parlais de certaines choses avec mon épouse, et elle me dit, et où est la place de l'Esprit là-dedans? Parce que je lui parlais de ça. Mais je dis, le Saint-Esprit peut, et ce, me, au milieu de l'ordre, au milieu de la discipline et au milieu de l'excellence. C'est une erreur de croire le contraire. Alors je ne dis pas que le Saint-Esprit ne peut pas bouger dans le désordre, parce qu'il est dit au départ que Dieu a créé, que l'esprit se mouvait au milieu du désordre, du chaos. Mais pourquoi l'esprit se meut ? Pour ramener l'ordre et la structure. Le Saint-Esprit n'agit jamais pour amener le désordre. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de l'exercice des dons. Et il dit « Dieu est un Dieu d'ordre ». Vous comprenez ça ? Et Dieu veut ramener de l'ordre dans notre vie. Et Dieu veut ramener de l'ordre et de l'excellence et de la discipline dans notre vie. Et je peux vous dire que c'est difficile parce qu'il y a encore la vieille nature qui est là. La mienne, par exemple. On va reprendre. Il faut moudre le grain. Tu dois changer de vie. Tu dois te repentir. Ta vie ancienne ne doit plus être et tu dois passer dans une vie nouvelle. Même si tu t'es déjà converti. Même si tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Il y a des domaines dans ta vie que Dieu, où Dieu ne peut pas exercer ta volonté. Et j'espère que le Saint-Esprit vous a parlé ce matin dans certains domaines. Après tout, je ne vois pas pourquoi je serais le seul. Moi, j'ai préparé le message hier après-midi et le Seigneur m'a parlé. Je me suis dit, Seigneur, que je ne sois pas le seul, que je n'ai pas l'air bête, quoi, à me mettre à genoux, à me repentir. Vous voyez, mon côté orgueilleux qui a parlé. Mais je suis sûr que Dieu vous parle et vous vous parlez cette semaine. Et ça doit changer. Et ça doit bouger. Mélanger. Combien de fois tu lis la parole ? Combien de fois tu vas chercher dans la parole ce que Dieu veut te dire pour l'amener à la croix et être purifié par le sang de Jésus ? C'est pas simplement ce matin. C'est pas simplement ici. C'est dans le lieu secret que Dieu t'attend et qu'il dit « Prends ma parole. Regarde ce que j'ai à te dire. Je veux vraiment changer ta volonté. Je veux changer ton cœur. Il y a encore des luttes en toi. » Et je voudrais les amener à mon obéissance. Pétrir. Viens pétrir mon cœur. Viens me rendre conforme à Jésus-Christ. Comme Jésus. Ne ressemblez pas à votre mari, votre sœur, votre frère, votre pasteur, votre ancien. Ne ressemblez à Jésus. Recherchez la ressemblance à Christ. Lisez, puisez dans l'Écriture et vous allez voir qui était vraiment Jésus et qui il est vraiment aujourd'hui. C'est pas votre pote, c'est celui qui est comme dans l'Apocalypse, au milieu des sept églises. Il se tient et il va amener la sainteté, il va amener la vie, il va amener la force, il va amener à faire entrer la volonté du Père dans ta propre volonté. Et c'est aussi une œuvre puissante que Dieu veut faire. Il veut cuire ton âme. Il veut cuire ton cœur. Il veut cuire la pâte de ta volonté. Parce qu'il a un souci, le Seigneur. C'est qu'il veut t'amener sur l'étal. Il veut te présenter au monde. Il veut te présenter aux personnes qui viendront ici. Il veut te présenter. Et lorsque les gens te verront et diront « Oh, qu'est-ce que j'aimerais être un pain comme celui-là. Qu'est-ce que j'aimerais être une baguette. Qu'est-ce que j'aimerais être ce pain-là. » Parce que tu donneras envie aux autres. Parce que ça va changer le regard des autres sur toi. Lorsque tu cesseras de dire « Que ma volonté soit faite sur terre comme au ciel. » Et que tu diras « Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. » Parce que Dieu veut te ranger. Est-ce que tu es prêt à remettre en question ta vision des choses pour que ce soit celle de Dieu qui s'imprime dans ta vie ? Est-ce que tu es prêt à remettre en question ta vision des choses pour que ce soit la volonté du Père qui s'imprime dans l'Église ici ? Est-ce que tu es prêt à abandonner ta propre volonté ? C'est ce que Dieu veut. Et il veut que ça change. Il veut que ça bouge. Il veut libérer cela. Parce qu'il veut demander, il veut donner à manger à ceux qui sont dehors. Quand ta pâte sera pétrie, quand ce pain sortira du feu et qu'il ira sur l'étal, Il y en a des millions dehors qui crèvent de faim. Il y a des millions de personnes. Moi, je ne veux pas rester une pâte informe. Je ne veux pas rester un pain sans goût. Je ne veux pas rester un pain qui dit « Je veux faire ce que je veux, Seigneur. » Mais je veux être un pain qui sera mangé parmi les nations. Je vous invite à vous lever. Je pose ma main sur mon cœur, Père. Je pose ma main sur mon âme. Et je pose ma main sur ma volonté. Je l'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je l'abandonne parce que je ne veux pas ma volonté sur terre comme au ciel, mais je veux ta volonté, Seigneur. Je veux ta volonté. Je te demande, Seigneur, de changer ma vie. Je veux te permettre de me passer par la mort de la croix. Je veux amener tout ce que je suis par la mort de la croix afin que je devienne vivant pour toi. Je te demande, Seigneur, de me laver, de me purifier de tous mes péchés. Je te demande de me libérer de ce qui s'oppose à ta volonté dans ma vie. Père, je veux laisser la parole de Dieu me pénétrer, et pas pour m'amener vers la culpabilité, mais me m'amener vers une vie de plus en plus conforme à la tienne. Je veux que tu purifies ma vie, Seigneur. Je veux aussi me laisser pétrir par toi. Je veux que ma volonté prenne la forme que tu veux. Je veux que ma volonté te suive. Je veux que ta volonté soit faite, Seigneur. Et peu importe l'épreuve par laquelle je passe, parce qu'elle est bonne pour moi, parce qu'elle amène mon âme à l'exactitude de ce que tu veux pour moi, Père, parce que je veux devenir un pain sur l'étal de ton royaume, je veux être un pain sur l'étal de cette église, et je veux que ce pain soit mangé, soit dégusté, et qu'il nourrisse les nations. Je le demande, Père, au nom de Jésus, et je pose ma main sur mon cœur, sur ma volonté, en te demandant une chose, Seigneur, que tu puisses, Père, me délivrer de tout ce qui aujourd'hui dans ma vie s'oppose à ta volonté, dans mon corps, dans mon âme, dans mon intelligence, que tout ce qui est contraire à ta volonté m'amène maintenant dans une véritable liberté pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Comme une prière.
Je veux te connaître.
Laissez l'Esprit de Dieu vous toucher maintenant.
Je veux te connaître.
Lâchez prise par rapport peut-être à des attitudes, par rapport à des pensées, par rapport à des choses qui vous sont contre votre propre volonté. Et recevez la libération, recevez la vie, recevez ce que Dieu veut faire en vous, sa volonté en vous.
Je m'abandonne.
de libérer ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à accomplir ta volonté dans leur vie. Viens libérer, viens amener, Seigneur, par ta puissance, par la puissance de ta parole, par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton nom. Je prie, Éternel, pour que tu libères ce matin ceux qui sont bloqués dans leur volonté, ceux qui sont, si je puis dire, liés et incapables de faire des choses pour toi. Père, libère ton peuple pour qu'il puisse devenir un peuple de serviteurs, pour qu'il puisse devenir conforme à toi. Lorsque tu dis « Je suis le pain de vie », que ce peuple devienne un pain de vie pour les nations. C'est ma prière au nom de Jésus et je déclare maintenant que c'est ce que tu vas accomplir. C'est ce que tu vas faire, Seigneur. C'est ce que tu veux libérer dans les cœurs. C'est ce que tu veux libérer dans les vies. Je vois des personnes, Seigneur, comme bloquées. Maintenant que ce déblocage vienne dans leur vie, Père.